à ne plus utiliser chez Belin. Et des illustrations de Arnaud Raphaëlian qui sont très drôles. Hein. Il y a chaque métaphore est illustrée d'un petit dessin. Ouais. Chez Belin Éducation. Voilà. Et puis l'autre ouvrage à sortir, qui est le prochain, donc qui sortira en septembre, qui s'intitule Petit traité d'anatomie superflue chez Delachaux-Niesley.
Et on peut trouver la recension donc de l'ouvrage de Daniel Milo sur le site de l'AFIS,
de l'Association française pour l'information scientifique.
Et ça sera dans le prochain numéro, je crois, de leur revue.
De la revue Science et Pseudosciences, qui est la revue régulière de l'association et qu'on trouve en kiosque. Voilà.
Merci encore à toi, Guillaume.
Merci, Mohamed.
Il est temps de laisser l'antenne à nos amis du Monde Merveilleux du Travail. Prochain direct au mois de septembre. À bientôt et un bel été à vous.
Encore passé ce maudit chat.
Le monde merveilleux du travail. Sur Radio Libertaire, 89.4 MHz. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail, l'émission des syndicalistes révolutionnaires du secteur commerce pour la diffusion de l'anarcho-syndicalisme, émission animée en direct sans retenue ni complaisance chaque premier, troisième et cinquième lundi du mois sur nos 8 heures de loisirs quotidiens.
Édito du lundi 15 juillet 2024 du Monde Merveilleux du Travail et Journée mondiale des compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Et ce depuis qu'en 2014, l'Assemblée générale des Nations unies l'a déclaré afin de célébrer l'importance stratégique de doter les jeunes de compétences pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise. Bah, du coup, je suis déçu. Cette journée mondiale vise plus à entretenir la compétition capitaliste que préparer la révolution sociale. De toute façon, ce n'est pas la conjoncture. Même si l'extrême droite s'est mangé une grosse tarte dans la gueule aux législatives bourgeoises, il faut bien admettre que la tendance internationale va plus à l'autoritarisme néolibéral plutôt qu'à l'autogestion généralisée. Notre émission de ce soir sera culturelle, divertissante et militante, littéraire, cinématographique et musicale, autour de Jack London, Louise Michel et les berruriers noirs. Tout de suite, à vous la régie.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes
sans malheur des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction gerbénosée. Le tiers monde crève, les ports sont pifs, la tension monte, les tiers griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, parqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Et au Chili, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des singes conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violence. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte, à coups de schlag, le sang inonde.
Ai-je besoin de dire qui c'était ? Porcherie, les Berruriers Noirs, dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Voilà, c'était en 1983, déjà 41 ans, du coup on ne va pas fermer Radio Libertaire tout de suite. N'en déplaise aux fachos en herbe qui écoutent la radio de la Fédération Anarchiste. Ah, ils aiment se faire du mal quand même, hein. Ils ont un petit côté maso pour voter RN déjà. Voilà. Bon, RN, c'est aussi la route nationale pour laquelle on part en vacances. Et les vacances, c'est divertissement et tout le tralala. Donc, bouquins engagés, films libertaires ou surdés et musique militante. Voilà. Bon. Alors, qui dit Journée mondiale des compétences de la jeunesse, dit aussi formation d'ICEL. Donc, quoi de mieux que... Quoi de mieux chez les syndicalistes révolutionnaires qu'une initiation à la grève générale ? C'est de ça qu'on va parler, monsieur ?
Bah oui, c'est le premier thème de notre émission à travers l'œuvre de Jack London, un recueil intitulé « Grève générale », qui a été réédité récemment et retraduit, me semble-t-il, aux éditions Libertalia.
Voilà.
Alors que vous pouvez trouver pour la modique somme de quelques euros. Quelques euros, si, quelques euros.
Oui, bah oui, 8 euros.
8 précisément.
Ça vaut pas plus.
je ne sais pas.
Donc c'est de nouvelles de Jack London qui relève du genre fictionnel de l'anticipation sociale et politique, le rêve de Debs et au sud de la Fente.
Alors le rêve de Debs, c'est Debs, c'est un militant socialiste et syndicaliste.
Eugène Debs qui a existé, hein, qui est décédé en
1926.
Bravo. Oh, bah, t'as fait des recherches quand même.
Oui, un peu. J'ai un peu préparé l'émission.
Ah, bah,
c'est nouveau.
Il y en a moins un. Ça, voilà. Bon, je vous fais un petit topo du truc. C'est bon, c'est pas bon. Alors, c'est l'histoire nous est contée par un bourgeois qui, dès son réveil, sent qu'un événement important, je cite, venait d'avoir lieu ou était imminent, comme à l'époque du grand tremblement de terre de 1906. C'est une histoire qui se passe, qui se situe à San Francisco. San Francisco, du 18 avril, je crois que c'est ça. 1906, il y a eu un tremblement de terre c'est fort, parce que
c'est terrible.
Quoi, c'est 7 sur l'échelle
de Richter.
Richter. 7-8 sur l'échelle de Richter. Bon, bref, c'était suffisamment marquant, visiblement.
Ah oui, pour plier la ville, oui.
Voilà. Et, bon, bref. Je ne sais plus où j'en suis. Donc, oui, il y a ce... Donc, notre bourgeois se réveille. Et en fait, ce qu'il réveille, c'est surtout le silence. Voilà. Un silence qui s'avère être le prémisse de l'arrêt du travail de la classe laborieuse, ou presque, hein, puisqu'il lui reste quand même un domestique, et qui lui apprend que plus rien ne fonctionne. Donc il a pas ses petits toasts avec sa petite confiture, tu te rends compte. Quand on lui amène son petit café, ou son thé, je ne sais plus, avec du pain de la veille.
Quelle horreur.
Mais exactement.
Quelle horreur.
C'est l'horreur. Il y a vraiment... Non mais, je ne sais pas s'ils se rendent compte, les pauvres, de l'embarras dans lequel ils mettent les possédants, les riches. Voilà. Alors donc notre personnage principal est un bourgeois oisif qui, dans sa jeunesse étudiante, avait intitulé un article traitant avec des involtures le rêve de Debs à propos de la grève générale comme outil révolutionnaire de la classe ouvrière organisée et qui serait le cauchemar des possédants. Et donc voilà, le titre de la nouvelle tire son nom, effectivement, de l'article de notre bourgeois. Donc j'insiste aussi sur la classe ouvrière organisée. D'abord parce que je suis syndicaliste révolutionnaire. On aime bien ça, l'organisation. Et donc la classe ouvrière a de fait préparé son action de longue date comme pour tenir un siège et réussir à renverser l'ordre des choses, ce qui arrivera en définitive à la fin de la nouvelle. Cependant, le récit nous confronte à l'individualisme crapuleux d'employés avides, à l'égoïsme et au mépris des bourgeois, à la lâcheté de tous, au chantage des maîtres des situations. Hein, parce qu'en fait, effectivement, quand les bourgeois, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus personne pour les aider, bah, le moindre domestique essaie de tirer profit de la situation. Voilà. Mais pas dans un intérêt, tu vois, pas pour la collectivité, c'est pour sa gueule propre.
Voilà. C'est vraiment une fiction, hein, ton truc.
Oui, bon, on pourra en parler, effectivement. Alors, comme j'ai dit, la grève générale porte ses fruits, mais notre protagoniste, qui est le prototype de sa classe, envisage lui aussi une revanche et le renversement du nouvel ordre établi, le renversement est en faveur de l'égalité sociale. Voilà, il nous dit « La tyrannie des syndicats a atteint un stade insupportable, il est temps de faire quelque chose. » Il aurait pu dire ça, tiens, Macron, si les syndicats étaient encore actifs. Ça va, effectivement. Alors, Eugène Debs, effectivement, c'était un agitateur syndicaliste, mais la grève générale dans la nouvelle est déclenchée par les ILW.
On a reconnu les IWW.
Eh oui, nos camarades les Wobbly, les I, les Industrial Workers of the World. Alors, effectivement, il a changé de lettre, mais effectivement, c'est bien les... Il nous parle bien des IVV, des IWW. Voilà. C'est une fable qui s'inscrit dans la lutte des classes, qui nous rappelle que la lutte est constante, mais des deux côtés. Hein. Et voilà. Bah, justement, alors, j'ai pas trop situé les mots à l'histoire. Elle a été écrite en 1909. Mais comme Jack London situe son histoire après la mort de Debs, qui est mort en 1926 quand même. Pas gentil. Donc voilà, c'est voilà. Et comme il évoque effectivement le séisme du 18 avril 1906, bah ça se situe entre voilà. 1906, bon, c'est une uchronie en fait.
Ouais,
voilà.
Il n'a pas. Alors question, il n'a pas arrangé le texte après sa première parution, c'est-à-dire qu'il n'a pas retravaillé le texte.
Le traducteur peut-être, ouais. De nouveau. Philippe Mortier.
Non mais London.
Oui.
Parce que ça arrive
non,
parfois.
Pas ma connaissance, j'ai pas. Non. Non, mais je crois que c'était c'était volontaire. Voilà, Debs n'était pas. Alors il avait tissé des liens avec Debs, hein, parce que il le connaissait. Donc voilà, il avait besoin de faire référence à lui. Mais bon, c'est en sorte que voilà, il situe ça à une époque où Debs serait mort. Voilà.
Mais la nouvelle est parue dans l'International Socialist Review. Certainement sûr. À une époque, mais que Jack London reniera ensuite, hein, parce que son tout simplement pour obtenir le droit d'aller de suivre l'armée américaine, parce que c'était aussi il avait un accord, donc de l'argent de l'État américain pour suivre l'armée américaine contre le Mexique des années plus tard, et que l'armée a refusé parce qu'il était justement, il était le un correspondant de l'International Socialist Review, qu'il avait écrit donc des articles.
C'était, alors...
Et donc il a renié comme ça pour pouvoir couvrir le correspondant de guerre, on va dire, pour faire simple. Il a renié son passé d'International Socialist Review participant. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça.
Ouais. Ouais, oui. Après, donc, alors c'était quand même personne engagée.
Ouais. Bah, géométrie variable quand même. Jack London, géométrie variable. Puis pas mal en proie à des, ouais, des changements de. Tu vois, pas changement de camp, mais changement de. Il était instable, hein. Très instable quand même. Ah, quelqu'un qui a beaucoup voyagé, mais qui aussi utilisait pas mal de psychotropes. Hein.
Bah, c'est vrai qu'il avait des relations avec les femmes un peu. Il changeait un petit peu de femme assez souvent. Ouais. Ouais. Je sais qu'il a appartenu à deux partis socialistes. Comment s'appelait ce premier parti il a adhéré en 1896. Bon, un parti socialiste, je ne sais plus le nom en anglais, je pourrais le retrouver. Mais. Ah, quand on fait pas le truc dans l'ordre, hein, monsieur pose des questions et puis il avance des. Et ben après, je sais plus où j'en suis. Forcément. C'était le socialiste Labour Party, effectivement, en 1896. Il l'a quitté, je crois, il est resté 4-5 ans. Et je crois qu'il est en 1901, il a dû quitter pour le Parti Socialiste d'Amérique. Alors là, je le dis en français pour le coup. T'as à peu près la même chose, l'autre. Hein. Mais il l'a quitté en 1916. Non, 1910. Non, je ne sais même plus. Non, il démissionne, ouais, en mars 1916. Et quelques temps avant sa mort, en fait. Hein, quelques mois avant sa mort. Justement parce que le parti commençait à faire un petit peu de réformisme. Il était plus à négocier dans les salons plutôt qu'à faire de l'action directe. Donc oui, c'est peut-être un personnage... mais il avait quand même... des convictions, ce monsieur, il était marxiste.
Ouais,
marxien. Marxien.
Marxien.
Oui, j'aime bien Marxien.
Marxien.
Voilà. Bah, et après, il a un parcours quand même un peu atypique, hein, si on fait un truc rapidos,
ouais.
si tu veux bien.
C'est, ouais.
Donc, il a vécu quand même pas mal dans la misère. C'est pas.
Ouais.
Non ?
Oui, enfin, il a eu quand même des revenus, il a pas mal voyagé, pas mal claqué de pognon quand même.
Avant de claquer du pognon, oui, il en a eu. Mais avant d'en claquer, il a été vagabond quand même. Hein. Il a repris des études en 1894, c'est là qu'il étudie Karl Marx et puis... D'ailleurs, il étudie Karl Marx, hein. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Si tous les prolos du monde se croisaient les bras, c'est bien aussi. C'est Philippe Mortimer, le traducteur, dans sa notice. Plus d'ouvrage qui sort ça. J'ai trouvé ça marrant. Donc il devient socialiste et militant. Il travaille pour payer ses études. Et puis il arrête en 1897 parce qu'il n'a plus de sous. Il était chercheur d'or. Il n'en a pas trouvé. Ça lui a permis d'écrire, de publier une nouvelle en 1899. Et à partir de 1899, effectivement, il a peut-être eu plus d'argent, puisque en 1902, il est reporter. En 1905, il se passionne pour la révolution russe de 1905. Et puis après, il va se passionner aussi pour la révolution mexicaine. Pour lequel il va écrire un recueil qui s'appelle Révolution 1910. On retrouvera tous les textes qu'il a écrits sur les insurgés mexicains. Voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu pas mal de. Alors autant il a changé deux fois de parti socialiste. Les femmes, ça a été beaucoup plus. Il était amoureux de filles, mais il n'a pas pu se marier, donc il s'est marié quand même avec une femme à qui il a fait des enfants, en disant « je suis pas amoureux, mais comme on s'entend bien, on se fait des mômes », puis il la quitte pour une autre, et puis d'autres. Il a une vie quand même, une vie dissolue, une vie d'islamo-gauchiste. Excusez-moi, Il y a au moins un auditeur qui me comprend. C'est un auditeur d'extrême droite. Il nous écoute aussi. C'est con, là. Ils sont assez cons pour nous écouter. voilà. Donc,
Il a un côté balsacien aussi, c'est-à-dire il court après le cacheton, quoi. Donc il écrit pour bouffer, quoi.
Bah après, quand t'as été vagabond, je peux comprendre que.
Non, mais c'est pas une critique, mais faut être capable d'abord. Ouais. Ouais, faut en être capable, faut quand même de fournir de la copie, quoi. C'est pas simple.
C'est vrai que j'ai plus, il a été faire effectivement des reportages à droite à gauche. Il y avait du 11 000 dollars par mois, je crois, pour... il a tout bouffé, hein, effectivement. Après, il s'est retrouvé dans la mouise. Je sais pas quel train de vie il avait. C'est pas...
Quand tu as du pognon, tu as beaucoup d'amis, à mon avis. Oui. Tu vois. Beaucoup de parasites qui sont là et qui te coûtent cher, finalement. Et puis qui se foutent pas mal, ils changent de... C'est comme les parasites, ça change de bête une fois qu'ils ont bien pompé, quoi. Je pense que c'est un peu le cas, quoi, malheureusement pour Jack London, quoi. Une de ses faiblesses, il était seul, il avait besoin de s'entourer. Alors, tout de suite, on a des amis qu'on pense être de vrais amis et puis qui sont là pour vous
Pour
vous éponger.
Oui, puis peut-être que c'est, oui, effectivement, ça lui plaisait aussi de vivre grand train. Tu peux être socialiste et puis avoir envie de...
Il n'y a pas de... C'est pas incompatible, mais je pense que là, c'est pas le grand train. Je pense qu'il s'est fait, essorer, quoi, par une compagnie peu recommandable. C'est bon. Voilà.
On va se mettre un peu de musique, tiens. C'est endormi.
Non, j'attendais le signal. Docilement. C'était The Soul Jazz Orchestra avec le morceau General Strike sur Radio Libertaire dans l'émission du Monde Merveilleux du Travail.
Voilà, General Strike, veut dire grève générale. On est dans le thème. Absolument. Voilà, puis comme c'est un ouvrage américain, Jack London, à ma connaissance, est américain. Voilà. Ouais.
Et bah, comme
ils sont pas que américains en fait, les Soul Jazz Orchestra, c'est même plutôt canadien en fait. Mmh. Mais bon,
la précision est importante.
Mais oui, bah,
je ne conteste pas. Le, bah, et du coup, bah, on pourrait avoir un petit extrait de. Alors, pour rappel, Grève Générale est un recueil, hein, et une des deux nouvelles de ce recueil s'intitule Le rêve de Debs, dont on a parlé précédemment. Et Bénédicte va nous lire un extrait.
De sa voix mélodieuse et enchanteresse.
Ah oh bah, ne me mettez pas la pression, quoi. Ce qui m'agace, ce sont vos jérémiades, ce sont les hauts cris que vous poussez, maintenant que vos procédés se retournent contre vous. Combien de grèves avez-vous brisées en affamant les travailleurs jusqu'à ce qu'ils se soumettent ? Or, il semble aujourd'hui que les travailleurs projettent de vous affamer jusqu'à ce que ce soit vous qui capituliez. Et la classe ouvrière exige le monopole syndical de l'embauche, et si elle doit vous affamer pour l'obtenir, eh bien tant pis, vous crèverez de faim.
C'est pas gentil. Hein.
Et là, on est dans le ton, c'est-à-dire qu'on revient sur ce que tu disais il y a quelques minutes, à savoir, donc il y a une inversion des rôles, cette fois-ci, c'est les syndicalistes, les travailleurs, qui, du fait d'avoir cessé le travail, de s'être organisé, qui mettent la pression sur... la bourgeoisie possédante, enfin...
Ouais. Voilà. Alors, effectivement, c'est pas juste une grève ponctuelle, comme ça, c'est sur un coup de tête, on fait grève. C'est que vraiment, c'est quelque chose qui a mûri, qui a été... préparé, effectivement, parce que tous les ouvriers organisés, syndiqués, ont accumulé de la nourriture. Voilà. Ils les ont stockés. Et eux, voilà, ils peuvent tenir le siège, on va appeler ça comme ça, parce qu'ils peuvent se nourrir leurs enfants. Or, les bourgeois, ils n'ont pas forcément beaucoup de stock.
Et qui ne travaillent pas.
Parce qu'eux, ils ne travaillent pas. Et oui, voilà, c'est vraiment beaucoup de difficultés à chercher de l'essence, tout ça. Donc, ils en sont à revenir à monter des chevaux pour pouvoir circuler. Même ça entre eux, hein, là, c'est entre bourgeois, c'est déjà difficile. Hein, d'abord, ils sont beaucoup moins organisés. En fait, quand ils sont réduits effectivement aux simples extrémités, enfin, de survie, ils ont beaucoup de mal à s'entendre en fait. Les bourgeois, parce que justement, ils sont assez individualistes malgré qu'ils arrivent à se grouper pour faire du profit, du bénéfice. Ils se retrouvent dans des clubs comme ça pour constituer leur carnet d'adresses et puis jouer, boire, enfin consommer, mais voilà, jouir. Mais quand ils n'ont pas pas l'instinct, mais la solidarité, ça leur vient pas à l'esprit, tu vois. Là, effectivement, quand ils sont acculés un petit peu à la détresse, du coup, là, c'est l'instinct individualiste qui reprend le dessus. Et effectivement, ils ont pas cette culture de la solidarité.
Voilà ce que cette culture de la solidarité qui vient de la récurrence du manque dont on partage le peu qu'on a. Et puis bah, voilà, parce qu'on en collectif on arrive à se soutenir finalement, pas que matériellement mais aussi psychologiquement.
Alors c'est un texte quand même, c'est assez amusant quand même, hein. C'est effectivement, puisqu'on voit les travers effectivement de la bourgeoisie, parce qu'on suit davantage la bourgeoisie que la classe ouvrière. En fait, à part quelques rencontres comme ça où ils peuvent expliquer, comme nous l'a si bien récité Bénédicte.
Actor Studio.
Parce qu'au début, quand tu disais j'en ai marre de vos jérémiades, je croyais qu'elle parlait de nous. Mais non, elle lisait le texte.
Vous êtes bien flatteur quand même. Hein, tout ça pour que je continue et que vous ne le fassiez pas.
Ah oui, il y en aura un deuxième après.
Oui, c'est un psychodrame.
Oui. Ouais, mais bon, c'est assez.
C'est drôle.
Oui, c'est drôle. Ouais, ça tourne en dérision, effectivement.
Ah, puis de voir les possédants comme ça, réduits à rien. Essayer de trouver des solutions misérables pour.
Mais bon. C'est une œuvre, enfin dans l'œuvre de Jack London, que je connaissais pas en fait ces textes, hein, je les ai découverts quand tu m'en as parlé. J'avais la connaissance classique de Jack London.
Hein. Des Cro-Blancs.
Oui, et puis tous les. Tout ce qui. En fait, toute sa littérature d'aventure, où moi j'ai retenu que ça mettait en avant l'individualisme, au contraire. C'était un peu nietzschéen, quoi. Comme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les plus forts qui, les plus malins, les plus sensibles ou les plus je ne sais quoi, qui, mais individuellement, qui réussissent dans un monde franchement hostile. Mmh. Donc, en fait, c'est du. J'avais cette idée qu'il était, je sais pas s'il en parlait parce qu'il en était convaincu ou parce qu'il avait, c'était son constat. On dit dans une littérature qui parlait d'un monde individualiste, libéral, et puis de survie, quoi.
Alors, moi, j'ai pas lu, hein, tous les je l'appelle de la forêt, Cro-Blanc, tout ça, je sais pas. J'ai lu, en revanche.
Il y a un côté libertarien aussi, je sais pas. Alors, c'est peut-être parce que c'est mes lectures ensuite qu'on.
Est-ce que c'est pas l'influence. Une hypothèse de ma part, je spécule. Est-ce que c'est pas l'influence de Henri David Thoreau, par exemple, qui avait écrit Walden ou la vie dans la forêt, dans les bois, je sais plus. Est-ce que c'est pas aussi cette influence-là qui lui a fait écrire ces étoiles?
C'est possible. Ouais. Alors, faudrait creuser pour le coup.
Bon,
ouais.
Après, j'ai pas lu. Moi, je ne connais que, effectivement, ces nouvelles-là. Science-fiction, je ne sais plus comment j'ai dit tout à l'heure.
Uchronie.
Une uchronie, mais le genre, c'est dystopie. C'est pas une dystopie non plus, je ne sais plus ce que j'ai dit. Putain, c'est dingue ça. Hein? Bon, enfin bref. Voilà, d'anticipation. Anticipation sociale et politique. Donc, c'est de la science-fiction quelque part. Hein. Ça relève de la science-fiction. Surtout quand on voit que tout ça n'arrivera pas. Mais j'avais déjà lu Le Talon de Fer, où, alors là, c'est un roman, beaucoup plus long, où effectivement, toute une. Il est quand même obsédé par l'organisation. Et je pense que. C'est vrai que ces bouquins, ça, c'est nouvelles. Le Talon de Fer, je ne sais plus, ça doit peut-être dater de 1907. Je suis pas sûr. Donc, tu vois, il y avait la révolution russe de 1905. Il y a eu la création des IWW en 1905 aussi. Je pense que il y avait cette. Il était très influencé par effectivement l'organisation de la classe ouvrière de son époque, aussi bien aux États-Unis avec les IVV, IWW, pardon, et les Russes en 1905. Donc, parce que 1905, la révolution russe de 1905, c'est aussi la création des soviets. S'il revient, que ce soit des syndicats révolutionnaires ou des soviets, ça revient un peu au même. Pas tout à fait la même chose, mais c'est assez proche. Donc je pense qu'il a été sous cette influence-là, effectivement, il s'est dit, si effectivement si la classe laborieuse ouvrière s'organise, elle peut réussir quelque chose en menant une action commune et organisée et collective. Et à un moment précis. Donc, la grève générale, quoi.
Oui, puis c'est dans l'air du temps. Enfin, il y a aussi.
Donc, c'est dans l'air du temps. Il est influencé par tout ça. Parce que c'est. Parce que oui, effectivement, c'est une revendication des IWW, la grève générale, et puis de renverser l'ordre des choses. Alors, effectivement, il a une vision idéalisée de la grève générale. Il est dans le mythe, c'est un mythe, la grève générale, mais lui, il pose sur papier. Voilà. Et voilà ce qui pourrait être. On sait que la classe ouvrière, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Alors, c'est vrai dans son bouquin, effectivement, il fait c'est vrai que le patronat était contre les syndicats. Enfin, il est naturellement contre les syndicats, l'organisation syndicale. Et il cite aussi la FL. Donc, il y a un syndicat puissant en Amérique, mais un syndicat aussi pas révolutionnaire, plutôt réformiste. Effectivement, donc un des personnages du roman fait valoir que vous, en tant que patronat, vous avez voulu détruire les syndicats parce que ça vous dérangeait, vous vouliez pas négocier avec. Du coup, en détruisant la FL, en faisant en sorte qu'elle n'existe plus, il s'est créé un autre syndicat, l'ILW, donc les IVV, et qui était beaucoup plus radical et qui s'est organisé souterrain quelque part.
L'IWL, je crois.
IWL, non. Ouais, je sais plus. IWL ou ILW. Non, ILW, c'est pas ça? Bon, enfin bref.
Ah ouais.
Donc voilà, effectivement, à vouloir trop taper et puis pas négocier avec des syndicats réformistes, on est acculé à se retrouver avec des gens qui négocient pas et qui s'organisent pour. Bon voilà. Voilà pour la nouvelle de. Alors bon, il a ce côté de. Cette vision de la grève générale très généreuse quand même.
C'est pareil, c'est un écrivain. Alors,
c'est un écrivain. Oui, mais ça revient aussi beaucoup. Ça revient dans le talon de fer aussi. Ouais. C'est pas la grève générale, mais c'est la classe ouvrière qui s'organise dans les sous-sols. Hein. Ouais. Alors, pour le coup, pour ceux qui regardent des films de science-fiction ou quoi que ce soit, quand tu découvres ces bouquins-là, tu vois que les films récents de science-fiction, tu vois, genre Matrix, tout ça, qui s'organisent en sous-sol, tu vois où ils ont été chercher leurs idées aussi. Parce que c'est un peu... C'est ça, quoi. Mmh. Alors, effectivement, dans le talon de fer, les ouvriers, ils s'organisent, mais sur 200 ans. Hein. Oui. L'optimiste. Mais
la temporalité.
C'est aussi sa vision marxiste, tu vois, du matérialisme historique et puis le. Voilà. Bon. C'est bien que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mmh. Alors, on peut passer aussi à la deuxième nouvelle, puisque c'est un recueil de nouvelles, donc il y en a deux. Avec au sud de la fente, on reste du côté de la classe dominante et de l'intelligentsia bourgeoise. Et pour étudier, en bon sociologue, la classe ouvrière, notre protagoniste va devenir littéralement un ouvrier en traversant le sud de la fente qui sépare San Francisco en deux depuis le tremblement de terre de 1906. Donc c'est un événement qui l'a quand même marqué, Jack London. Donc,
mais qui est un événement de toute façon marquant. Enfin, je veux dire, ça a vraiment bouleversé le paysage, radicalement.
Il se sert effectivement de ça pour la fente. Il y a une fente. Et au sud, vous avez la classe laborieuse, vous avez les pauvres, et au nord, vous avez les riches. Et c'est effectivement ce sociologue qui passe. Traverse la fente pour aller chez les pauvres qui, c'est la séparation des deux classes et elle marque également la dualité qui anime l'être humain. C'est un petit peu à la manière de Jekyll et Hyde, hein, de Stevenson. Parce que quand il passe effectivement la fente, il a cette séparation. Ah ouais, c'est un autre. D'un côté, c'est le sociologue qui est vraiment établi, tu vois. Et puis, quand il a passé, il devient un héros de la classe ouvrière, en fait. Il se prend au jeu. C'est vraiment deux personnalités. Dans cette dualité, voilà, c'est... Alors, il y a d'un côté la notabilité, hein, c'est les mariages arrangés à des fins de notabilité, comme je disais, et de l'autre, c'est la liberté sexuelle désinhibée. T'as l'austérité capitaliste et la solidarité amicale chez les ouvriers.
Pour lui, c'est du vécu, la sexualité désinhibée.
Ah oui, ça va être quoi il parle. Je pense qu'il a mis un petit peu de lui quand même dedans, effectivement. D'un côté, la vente, c'est la raideur solennelle et puis avec une vie assommante. Et l'autre, c'est une lutte incessante, mais pimentée par l'agitation sociale. voir ça comme ça. Ouais, bah, de côté, t'as une vie monotone, à passer en cage dorée, parce que rien ne te manque, et puis t'es bien, t'es entouré de gens un petit peu comme toi qui respectent les conventions. Puis de l'autre côté, t'as une vie libertaire où tout manque au quotidien. Mais voilà. Voilà, c'est l'abondance contenue contre la frugalité choisie. Donc, il va être obligé de faire un choix entre ces deux modes de vie. Et puis voilà. Et puis, on ne révèle pas la fin.
Bah non, parce qu'on a
vite. Je n'ai pas raconté grand chose en fin de compte.
On invite l'auditeur à acheter le et à le lire.
Bah oui, voilà, vous savez pas quoi faire de vos vacances, vous savez pas quoi lire. Voilà, 8 €.
8 € aux éditions Libertalia.
Voilà. Vous n'avez pas trouvé ça chez Publico, il va y avoir des fermetures. Ah bah non, si, ils vont peut-être être ouverts, mais en tout cas, les dimanches, ça ne sera pas ouvert chez Publico. Il y a peut-être un moment où ils vont fermer quand même. Hein. Renseignez-vous sur le site. La librairie du monde libertaire. Et puis,
ça reste une adresse.
Vous pouvez trouver ça n'importe où. Mais oui, ça reste une adresse.
Recommandable.
Bien sûr. Et puis voilà. Donc il y a des choses assez, assez truculentes dedans.
Gardez-le en mémoire si vous voulez faire un petit cadeau pas trop cher pour un anniversaire, pour les fêtes de fin d'année.
Oui, pour les enfants.
Bah, par exemple.
Bien sûr, ils peuvent les lire, les enfants.
Ouais. Pourquoi pas.
Une vie sexuelle désinhibée, mais justement, ça va leur apprendre un petit peu. Non, il n'y a pas de scène. Voilà, bon, il y a des... Ça va leur apprendre le combat, la lutte, hein, parce que là, effectivement, dedans, tu as des scènes aussi où ils se retrouvent à attaquer sa castagne, quand même. Sa castagne contre les cognes. Voilà, en haut d'une charrette, voilà, il prend... Donc ce sociologue bien établi devient une brute, on va dire une brute épaisse, quelqu'un qui prend plaisir à cogner pour défendre ses camarades. Et pour donc voilà. Je vois que notre technicienne nous regarde d'un air sévère. Est-ce que oh la vache, ouais. C'est
et
chiant.
On enchaîne.
C'est chiant, c'est ça. Mais l'horloge
non,
comptoise, genre.
Non, c'est pour dire on enchaîne
le
sur
temps
le.
Tourne, tu nous emmerdes.
Sur une autre œuvre.
Ben, on va leur mettre une petite musique, tiens. Tu voulais en mettre tout à l'heure. Voilà, grève générale encore.
Une autre General Strike.
Ben, bien sûr.
Backwards.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 MHz et c'est le monde merveilleux du travail. Donc c'était DOA avec General Strike.
Ça veut dire quoi DOA?
C'est un acronyme.
Ah, c'est pas trop... Dead or Alive.
Oh. Ouais, ou Dead on Arrival, ça dépend. Ouais. Ça dit un peu ce qu'on veut.
Mais oui.
Mais ouais, c'est...
Bon,
oui, bah, donc, bah, c'est, oui, c'était Joshite de. Je sais plus le nom de. C'était le super-nom. Et c'est vrai que je n'ai pas trop écouté la chanson, mais il me semble qu'il y avait Jello Biafra avec. Qui chantait en duo. Jello Biafra, les auditeurs connaissent bien. Parce que c'est tous des anarcho-punks. Ils ont tous écouté Dead Kennedys.
Oh oui.
Bah, bien sûr.
Oui, certainement. Oui.
Ils ont tous nos âges maintenant.
Fresh fruit plus. For rotting vegetables.
Ah oui.
Après, c'était moins bien.
Je préfère tout drunk, tout fuck.
Ah oui. Ouais. Bah ouais. Ouais.
J'avais un badge. Il y en a qui me croisaient des fois. Pas mieux maintenant. Ah là là.
Moi, tu savais te faire aimer déjà à l'époque.
Ah bah toujours. J'ai toujours été quelqu'un de très apprécié.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un album. Mais j'ai pas écouté. En fait, moi, je suis resté au premier album.
Non, le premier, quoi. C'est le meilleur. Ouais.
C'est le meilleur.
Et la chanson, To Drunk To Fuck.
Ouais. Holidays in Cambodia, c'est un des meilleurs morceaux.
Quand je suis arrivé à la CNT, il y a un secrétaire de. Bah, il y a un moment, une des secrétaires qui m'a désigné délégué syndical, et il aimait bien cette chanson. C'était Sandrine, ça s'appelait. Voilà. Je donne pas le nom. Hein.
C'est bon, c'est bon.
Elle a un métier aussi, je crois que... Je me souviens de tout ça, des trucs qui remontent à 25 ans passés. Ouais, pas grand-chose à foutre hein, pour parler de conneries comme ça.
Bon.
Bref, bon, ben bah, voilà, on en a terminé.
Après la partie littéraire, donc ce recueil de nouvelles intitulé La Grève Générale de Jack London, qui nous a fait découvrir, en tout cas pour ma part, un autre Jack London.
Ah oui?
Ouais. Oui. Bah après, je connaissais pas. Alors, pour moi, c'était l'alcoolo.
Toi, c'était Croque Blanc.
Croque Blanc, c'était en fait le type, le libertarien survivaliste, individualiste, que le meilleur gagne, un peu, influencé par un certain Nietzsche, parce que Nietzsche, c'est pas que ça, hein, c'est complexe Nietzsche. Hein, j'en connais au moins 5-6 des Nietzsche dans Nietzsche. Hein. Donc, en fonction de ses périodes et de ses moments de.
de folie. De lucidité.
Et de lucidité. Donc, mais bon, donc le jeu, puis bon, c'est des aventures, la forêt, enfin, Jack London, il était réputé pour les grands espaces, l'Ouest américain, poète, quoi. Mais non, mais j'ai découvert quelque chose, donc merci Fabrice.
Ah ben, oui.
Merci Fabrice.
Mais tu me rendras le bouquin, quand même.
Mais je ne l'ai plus, le bouquin, tu demanderas...
Il a déjà disparu.
Oui, il a déjà disparu, j'ai déjà revendu à Bénédicte, il a acheté 8 euros. Et j'ai fait une affaire.
Ah bah oui.
Bon. Deuxième partie, la partie cinématographique sur un film dont on a parlé en préambule, dont tu as parlé en préambule, Louise Michel, et c'est un téléfilm de 2000, je sais plus combien, 2018, non
2010.
2010.
Qui aurait été apparemment tourné en 2008, je ne sais pas trop.
Ouais, bah ouais. 2008, 2010. Ouais, 2008.
En fait, c'est un film de. Un téléfilm de télévision, pour la télévision. Donc, je ne l'ai pas vu parce que je ne garde pas la télé.
Ouais. Donc c'est le rôle titre est joué par Sylvie Testu, je ne connaissais pas.
Ah ouais?
Non. Bon, bien sûr, moi, la culture cinématographique, c'est très limité. Hein.
Ouais, elle est très bien dans le rôle parce que Louise Michel, c'est pas quelqu'un qui est très esthétique.
C'est pas quelqu'un qui est facile à incarner non plus. Hein.
Ouais, je trouve qu'elle s'en sort plutôt, s'en est plutôt bien sortie. Et elle est pas laide, hein, Sylvie Testu, mais c'est pas.
Mais Louise Michel non plus d'ailleurs.
Ouais, pas chouette quand même. Hein. Elle est pas réputée chouette et même les descriptions qu'il y a, c'est pas. Autant sa mère était belle, apparemment, qu'elle était laide. T'as de drôle de goût quand même, toi.
Hein.
C'est pas que le physique qui compte.
Ben oui, il y a l'âme aussi.
Heureusement.
Il y a
l'âme. Heureusement. Alors par contre, oui, autant le. Bon, pas quelqu'un de très, très joli.
Ouais. Oh, je vois. Bon, bon, ben après, voilà. Ben,
j'espère que tu ne me trouves pas beau parce que.
Mais tu es très beau.
Oh, putain, merde.
Je vais vous laisser.
Ah non, mais c'est pas ça.
Je repars avec mon bouquin de Jack London à 8 balles.
À 8 balles, et tu me dois 8 balles, n'empêche. Bon, plus sérieusement.
Oui, bon, donc oui, c'est. Alors, j'ai repéré, puisque tu étais déjà en train de donner les. J'ai repéré des acteurs. Mais je trouve qu'ils sont tous bien choisis, en fin de compte. Après, on parlera de la réalisatrice, parce que c'est une réalisatrice quand même qui l'a. Donc, il y a Sylvie Testu dans le rôle de Louise Michel. Alors, on retrouve dans le Nathalie Lemel, hein, puisqu'ils ont été. Ils sont partis.
Ensemble.
Ils ont été déportés ensemble. Alors, Nathalie Boutefeu, par contre, je ne reconnaissais pas. Alexandre Stéger qui interprète Charles Malato. Autant Stéger, je ne connais pas que Charles Malato, ça parle à tous les auditeurs et les auditrices.
Mais c'est des acteurs, en fait, que je ne connaissais pas, donc je n'ai pas d'avis.
Là, il y en a un, celui qui fait Henri Rochefort, c'est Bernard Blancan, c'est peut-être celui avec Testu qui était le plus connu. Je ne sais plus en quoi je l'ai vu, mais. j'ai pas pris de notes pour ça, parce que je ne savais pas que. Mais bon, là, c'est le. Voilà. Voilà. Donc, c'est un film. Malgré tout, qui est disponible en streaming et en VOD sur Univers Ciné. Pour ceux qui voudraient le découvrir, s'ils ne l'ont pas déjà vu en 2010, quand il est passé sur je ne sais quelle chaîne. Voilà.
Alors, grosso modo, ça traite d'une partie de cette année, de la vie de Louise Michel. À partir du moment où elle débarque à la presqu'île Ducos,
Nouvelle-Calédonie. Après avoir participé à la Commune.
Exactement.
En tant que.
Avoir été accusé d'être une pétroleuse.
Oui.
Qui là aussi, c'est un mythe que les historiens un peu sérieux ont démonté. Et puis donc, le film commence sur ce qu'elle arrive, qu'elle débarque du. Je ne me souviens plus du nom du bateau.
Alors. Ouais. Alors, en fait, ça commence sur Louise Michel à la barre. Qui répond, qui annonce que bah oui, on m'accuse d'avoir participé à la Commune, on m'accuse d'avoir incendié, on m'accuse, et à chaque fois elle dit bah oui je suis d'accord, et si vous avez un peu de courage, vous allez me fusiller. Mais donc visiblement ils n'ont pas eu de courage parce que c'était une femme, ils n'ont pas fusillé, ils l'ont déportée. Je ne sais pas si c'est mieux. Enfin, tant mieux pour nous, tant mieux pour la cause, tant mieux pour les libertaires, pour les anards, parce que effectivement.
Tant mieux pour elle aussi. Ça,
ouais, mais ça aurait été une grande perte pour nous, une grande perte culturelle et politique.
Oui, puis et, c'est.
Si c'est quelqu'un de bien quand même. Ça, c'est un exemple.
Oui,
ça,
puis
c'est vraiment. Bon, bref.
Dans l'action et même dans le film, qui montre que. Son militantisme, il est beaucoup. Il n'est pas. C'est pas un militantisme étroit, parce qu'il y a quand même pas mal de militants qui sont des militants étroits. Bornés. donc, pas utiles. Pas, c'est pas qu'ils ne sont pas utiles, mais c'est. C'est pas avec ça qu'on gagne des grandes causes. Quoi. Et elle est, en fait, elle est open-minded, c'est-à-dire qu'elle. Elle s'intéresse au monde qui l'entoure. Et elle le voit très bien quand elle est dans le film. C'est assez remarquable, parce que ça fera aussi l'objet de quelques échanges tout à l'heure. Elle s'intéresse aux populations locales. Ce qui n'est pas le cas de tous les déportés, qui vont même parfois être assez désagréables à rencontre.
Ouais, on sent que c'est elle quand même qui porte un peu... qui maintient une certaine idée de...
Ouais.
Qui avait... pendant la Commune. Mais après, on peut comprendre. Il y a des gens qui se désespèrent, qui perdent un peu la foi, et puis elle est là, elle est toujours là pour leur remonter le moral, ou les reprendre, en tout cas, dans le film. Mais après, les participants de la Commune, c'était pas tous des anards, c'était peut-être pas tous des libertaires. Ils ont participé à quelque chose, mais sans avoir forcément une idéologie. Hein. C'était pas.
Et c'est là qu'on se rend.
C'est comme dans la vie tous les jours. Là, tu rentres dans un syndicat, mais c'est pas parce que tu rentres, ne serait-ce qu'à la CNT, quelle que soit la CNT, c'est pas pour ça que tu deviens syndicaliste révolutionnaire. Hein. Il serait bien que il y a certaines personnes dans les structures qui se dessilent un petit peu les yeux, justement. Mmh. Il ne suffit pas d'avoir la carte, hein, de payer la carte pour devenir syndicaliste révolutionnaire. Hein. Non, on est côtoyé assez pour le savoir.
C'est,
il n'était pas.
Effectivement, il y a ceux qui ont été... on voit très bien les personnages dans le film qui ont été embarqués dans une histoire qui les dépasse.
Alors, effectivement, on découvre. Donc, effectivement, il y a le débarquement. Ils sont. On s'imagine effectivement un groupe, mais quand on isole un petit peu, bon, on voit qu'il y a des personnes qui ont été là parce qu'ils ont pour des choses. Déporté pour des choses anodines. Mmh. T'as porté secours parce que t'as donné à manger. Voilà, tu traversais la route. Mmh. Voilà. Et effectivement, il y a tout et n'importe quoi et n'importe qui, surtout.
Et même, on voit la différence entre. Elle est assez proche, finalement, de Lemel. Dans le côté idéologique, les convictions. Par contre, on voit très bien, le téléfilm le montre, qu'il y a une différence assez grande entre elles, toutes deux, et Rochefort, par exemple, qui reste quand même assez distant, assez... Rochefort, c'est un personnage un peu sulfureux, quand même, aussi. Hein.
Hein. Donc,
et pourtant, il se retrouve aussi, comme tu disais, déporté. Et lui, en plus, il va se barrer, il va se sauver.
S'il va pas arranger la condition de ceux qui restent.
Exactement.
Donc effectivement, et ça lui est reproché, c'est qu'effectivement, en arrangeant lui son quotidien, il a dégradé celui des autres. Ouais. Donc, mais bon, oui, c'est.
Je crois que c'est finement. Alors la réalisatrice a fait un travail assez remarquable parce que d'un groupe, elle a réussi à montrer à reprendre les caractères, enfin les en anglais c'est les personnages quoi, qui sont Lemel et Louise Michel forment vraiment une identité commune, révolutionnaire commune, parce qu'elles ont un passé qui les a structurés comme ça, et les autres c'est moins vrai, hein, et donc on voit à mesure de leur relation qui se prennent de la distance, qui s'interrogent, qui se...
On avait déjà évoqué Lemel dans les précédentes émissions. C'est vrai, et c'est évoqué quand même dans le film, parce que je pense qu'ils essayent quand même de... Alors, ça parle à ceux qui connaissent déjà un petit peu les personnages. C'est vrai que ceux qui découvrent, sans avoir une connaissance un petit peu de la commune ou quoi que ce soit, les noms personnages, d'abord Lemel, ils savent pas qui c'est, peut-être. Alors, dedans, effectivement, il est évoqué Varlin, qui était le compagnon de Lemel quand même, et Théophile Ferré, qui était quand même très proche de
Louise Michel.
De Louise Michel. Alors nous, ça nous parle. C'est vrai que le spectateur lambda, est-ce qu'il fait des références?
Sait
où se trouvent les rues de ces gens-là dans Paris?
C'est à ça que sert le... Enfin, c'est une des fonctions du téléfilm.
Si c'est un peu curieux, ils veulent savoir ce que... Qui sont ces gens?
Bah oui, mais bon.
Enfin bon, c'est l'objet aussi un petit peu de nos émissions.
Et puis la réalisatrice a fait ce téléfilm dans l'objectif, enfin j'imagine, de faire connaître ces personnages pas forcément font pas forcément de l'histoire racontée aux enfants dans les écoles, quoi. Pas que je sache.
C'est clair.
Sauf que. Je me souviens qu'un des premiers exposés que j'ai fait avec mon prof d'histoire géo en quatrième, c'était sur la commune de Paris. Et j'avais acheté un petit que sais-je à l'époque. Et du coup, il m'avait regardé différemment.
T'es mis au coin?
Ben non, c'était un communiste. Donc il avait regardé différemment. Et ça, j'ai toujours le que sais-je. Donc, c'est des personnages qui... après, j'ai pris de la distance, parce que forcément, pour vous dire, chers auditeurs, comment j'en suis arrivé là? Bon, c'est un peu compliqué, mais... Et donc, voilà, mais on peut... on peut aussi s'intéresser, à être amené à s'intéresser. Et le fait d'avoir ce téléfilm, je pense que c'est le... Bah, à moins de regarder ça comme un... Comme un flanc.
Ouais, non, mais je, toi, moi, j'ai trouvé qu'il était relativement bien fait. Ouais, je me suis pas endormi.
Moi non plus.
C'est déjà un signe. Mm.
Moi, j'ai pas zappé. J'ai tout regardé.
Là, t'as été obligé.
Parce que là, non, mais même, j'ai pris. Puis il y a des plans.
Ça paraît vraiment plausible. Ouais. C'est. Mm. Enfin, on a l'impression de voir Louise Michel, quoi. Elle l'incarne très bien. Enfin, tous les personnages sont bien.
Et puis il y a des plans magnifiques, ouais. Alors, en plus, ça ne gâte rien. Esthétiquement, c'est une belle réalisation aussi.
Alors, on peut parler quand même de. Alors, on ne l'a pas cité, la réalisatrice, c'est Solveig Anspach. Mm. Je ne sais pas comment ça se prononce, parce que c'est un nom allemand avec un prénom islandais. Mm. Donc, c'est une franco-germano-islandaise. Qui est morte assez jeune, hein. C'est comme un petit peu comme c'est un destin un petit peu à la pas à la de, non, c'est pas un destin à Jack London, mais Jack London est quand même mort à 40 ans. Mm. Pas très vieux. Bon, elle avait dû avoir 54 ans, quelque chose comme ça. Mm. C'est pas très vieux quand même. Hein, t'es déjà plus jeune que nous. Voilà, elle a décédé 5 ans après le film quand même, hein, en 2015. Mm. Et le film a été. Les scénaristes, il y en a deux. Il y en a un avec qui elle travaillait couramment et qui s'appelle Jean-Luc Gaget. Et l'autre, il va parler un petit peu plus aux auditeurs, aux auditrices de Radio Libertaire, c'est Michel Ragon. Donc. Ce qui, effectivement, comme je disais, ça me paraissait effectivement plausible, tu vois, et puis que assez bien interprété, mais effectivement, Michel Ragon, pour ceux qui le connaissent pas, c'est quand même, feu Michel Ragon, parce qu'il est décédé il y a quelques temps, là, il y a peu de temps, et c'est quelqu'un qui s'inscrit dans le mouvement libertaire, je crois qu'il est anard même carrément, et qui avait écrit notamment La mémoire des vaincus, un roman. De fiction aussi, mais qui racontait un petit peu l'histoire de l'anarchisme de 1911, donc de la fin de la bande à Bonneau jusqu'à 1968, à travers un personnage fictif, mais qui rencontre Victor Serge, Durruti, Macno, tout des un tas de personnages comme ça qui à un moment ou à un autre ont été en France et qui ont été qui ont marqué le mouvement anarchiste. Voilà, donc je pense que l'influence de Michel Ragon dans le scénario y est pour quelque chose aussi. Mmh. Pour avoir ces personnages, Varlin qui sont cités, Théophile Ferret.
Lui, il a porté sa caution intellectuelle, de spécialiste, et puis aussi sa sensibilité. Mmh. Non, ça fait c'est un bon. Franchement, moi qui suis absolument pas téléfilm et qui redoute là, de manière générale, de regarder quelque chose qui dure plus de 10 minutes. c'est assez captivant. Hein, puis je leur dis, hein, c'est très bien filmé hein, en plus. Hein, il y a des plans assez des plans des personnages quand ils sont en situation. C'est bien fait, c'est une œuvre esthétique, hein, en plus d'un message politique puis d'espoir, puisque Louise Michel, une fois qu'elle aura passé 7 ans, elle retournera en métropole. Et je lisais la Justice, le journal de Clémenceau, parce que Clémenceau lui envoie des mandats pendant toute sa détention.
Oui, alors c'est vrai qu'on voit aussi qu'elle est soutenue à la fois. Elle correspond avec, avec Clémenceau, mais aussi Victor Hugo, qui la soutient aussi, qui, eux, dans la métropole, opèrent pour qu'elle soit libérée.
Que tous les. L'amnistie soit.
Voilà, ils œuvrent pour une amnistie générale, mais aussi pour Louise Michel. Donc c'était quand même déjà, à l'époque, un personnage. Reconnu, important.
Et donc dans la Justice, dans le numéro, alors je sais plus, numéro de 1880, je crois que du 11 novembre 1880, de mémoire, hein, du 11 novembre 1880, elle arrive à la gare Saint-Lazare et il y a plusieurs milliers de personnes qui l'attendent. Mmh. Parce que les journalistes disent comment c'est possible, il y a plusieurs milliers de personnes qui l'attendent déjà et il y en a d'autres qui arrivent. Au cri de vive la commune, enfin voilà. C'est quand même c'est particulier.
Oui, oui.
Donc puis il y a de la police autour, hein, bien sûr. Mais ah bon, bon, il n'empêche que voilà, la commune n'est pas si. D'abord, la commune n'est pas morte en 1880. Hein, et puis malgré la répression, malgré j'imagine aussi beaucoup d'enquêtes qui ont suivi. Enfin, j'imagine pas parce que là ça je le sais, d'enquêtes qui ont poursuivi toute personne suspecte d'avoir apporté ne serait-ce que un peu d'aide ou un peu de compassion ou aux plus actifs dans la commune. Donc oui, alors, je sais pas comment s'appelait mais la police politique de l'époque documentait les Parisiens sur ce qu'ils avaient fait durant la période sans communarde. Mmh. Donc bon voilà, et donc ça on le montre pas dans le film, mais on montre bien qu'elle a des échanges avec comme tu l'as dit avec Clémenceau et Hugo, qui finalement porteront ses fruits, parce que enfin leurs fruits.
Alors, moi, j'ai pas trop lu j'ai pas encore lu les mémoires de Louise Michel. J'avais lu ce qu'elle avait écrit sur la commune, où effectivement il y a quand même des passages où elle évoque effectivement la déportation, sa déportation, et puis celle de. Donc c'est vrai. Bon, quand j'ai vu le film, oui, ça m'a paru assez
fidèle,
effectivement, à ce que j'avais pu lire. Mmh. Bah, effectivement, on voit un petit peu la violence, enfin la méchanceté, la violence quand même des gardes chourmes.
Ouais, c'est ça. Ouais,
et puis en fonction effectivement de celui qui commande le camp ou l'île, bah, c'est plus ou moins violent d'ailleurs. Mmh. Donc au départ, c'est violent, mais ça sera encore plus violent après. Voilà, c'est vraiment des sans-droits.
Hein. Ah oui, complètement.
Bah et donc ça nous montre bien la Nouvelle-Calédonie comme une terre, enfin ces îles là, de
l'archipel néo-calédonien.
Ouais. Bah, effectivement, comme une terre de relégation, hein, parce qu'on y voit défiler alors, effectivement les communards, puis après ce sera les Algériens qui se sont rebellés en Algérie, forcément, donc qu'on emmène là-bas. Et puis, bah, il y a la répression des Kanaks aussi, quand ils se rebellent, parce que c'est quand même une colonie française. On nous montre aussi, il y a tous les sous-textes féministes aussi. Mmh. Hein, de tout ça qu'ils ont porté aussi par Louise Michel, en fait, hein. ça tourne vraiment toi, donc c'est Louise Michel la rebelle, le titre, mais se rebelle contre tout le monde et contre tout,
hein. Le titre est parfait, hein.
Contre tous les préjugés qu'on peut avoir, donc que c'est alors tous les préjugés féministes les préjugés sur les Kanaks qui sont en fin de compte considérés un petit peu comme des cannibales aux yeux des malgré tout des communards qui sont déportés.
Ouais, une partie.
Oui, une partie. Mais quand même, hein, ils ont même Lemel, elle accuse un peu les Kanaks d'être misogynes. Louise Michel lui rappelle quand même que voilà, c'est il y a la même chose en fait dans la métropole. Mais que là, du coup, le fait qu'ils soient habillés, qu'ils soient vêtus, qu'ils soient entre guillemets civilisés, ça passe mieux la misogynie. Mmh. Tu vois le, c'est peut-être pas la misogynie hein, qu'ils ont dit, mais sexisme plutôt.
Ouais.
Et misogynie, c'est bien.
En fait, il y a eu un tournant, c'est effectivement lorsque les tribus, alors les Kanaks, c'est très réducteur, hein, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de de peuples qui constituent la Nouvelle-Calédonie, avec des langues qui sont avec des variantes. Hein, c'est complexe. Et en 1878, il y a une révolte parce que, en fait, à la fin de l'été 1878, les blancs, donc les colonialistes, les forces coloniales, s'approprient des terres de plus en plus, donc, et s'approprient le cheptel, s'approprient également les ressources naturelles mais élémentaires comme les cours d'eau, les sources. Et donc, il y a une relégation dans la relégation, c'est-à-dire que les déportés sont relégués hein, de la France métropolitaine ou d'Algérie, comme tu l'as dit, et puis ils relèguent en fait les Kanaks vers les terres les plus difficiles, les moins fertiles, moins de terres. Donc, mais ce qui fait que il y a une révolte qui éclate. Il y a une guerre, alors une guerre qui durera pas parce que il y aura quelques semaines et il y aura un massacre, un réel massacre par les forces d'occupation françaises qui sont
les occupations françaises qui sont aussi des fois tenues par des communards.
Oui, moi aussi. Ouais. Hein
ouais. Et en fait les déportés qui en fait partent parce que partage sans doute le point de vue, les préjugés de l'occidental. Et puis pour aussi, en espérant sans doute avoir des aménagements dans leurs conditions.
Bien sûr.
C'est une petite pause musicale.
Oui, on va écouter Johnny Thunders avec Alone in a Crowd, bien dit, dans le monde merveilleux du travail sur Radio Libertaire 89.4.
Yeah.
Alors, c'était qui ? Ah bah non, tu nous l'as dit, c'était Johnny Thunders.
Oui, je l'ai fait avant, pour une fois, j'ai changé, j'ai cassé la routine.
Je suis habitué. Alors, du coup, on vous a mis, chers auditeurs, une version studio propre. Parce que ça, c'est le choix d'Eric, c'est absolument pas le mien. Et lui, il avait choisi une version en concert complètement pourrie des Jolas. C'était inaudible.
Ouais. Bah, Johnny Thunders, je trouve que c'est superbe à propos parce que ça rejoint un peu Jack London. Parce que c'est des artistes. C'est des tox tous les deux.
Je crois que c'est le côté vagabond. Hein.
C'est bah, le vagabond, ouais, c'est des vagabonds. C'est des tox aussi. Ils ont voyagé tous les deux pas mal. Et puis, finalement, la chanson Alone in the Crowd, c'est seul dans la foule, si je puis traduire. Et c'est un peu Louise Michel, quoi. C'est-à-dire que. Parfois, ça ressort un peu dans le téléfilm. Je trouvais qu'elle était un peu toute seule à essayer de remonter.
Oui, parce que surtout qu'elle essaie de. Alors, elle remonte tout le monde. Elle s'occupe de tout le monde. Elle s'occupe même de la flore. Elle essaie de sauver les arbres, sauver les âmes, sauver ses camarades.
Les Canaques.
Les Canaques. Ben, bon. Et Bénédicte, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Si je critique Louise Michel sur Radio Liberté, s'il te plaît,
tu me fais critiques que le
non,
le
c'est non, oui, c'est le la manière. Au bout d'un moment, son côté effectivement, je sauve tout et tout le monde, militant en permanence, non-stop. Enfin, cette femme ne sourit pas. Enfin, je sais qu'elle n'avait pas de raison de sourire non plus, mais ouais, ça m'a un peu fatiguée au bout d'un moment, très, très honnêtement. Mais moi, j'étais complètement dans l'émotion. J'étais pas du tout. Voilà, c'est une réaction vraiment totalement émotive de ma part.
Ouais, mais alors, j'ai pas eu justement la même réaction. C'était plus, effectivement, c'est plutôt émerveillé le fait qu'elle soit tout le temps sur la brèche, quoi.
Ouais.
C'est, et même Bénédicte, ça l'a fatigué.
Ouais. Tout le temps.
Qu'elle était comme ça, parce que de toute façon, jusqu'au bout, elle a fait des conférences. Elle est morte. On allait faire une conférence, d'épuisement en fait. Bon, elle n'était pas toute jeune, elle quoi, 75 ans 70, 75 ans.
Ouais, 75 ans, autour de 75 ans. Parce qu'elle est 1830 et elle est morte en 1905, donc elle a été dans sa 75e année. Ouais. Ouais. Donc oui, c'est.
Elle était malade, elle est en bonne santé, mais en plus, épuisée par.
Enfin, moi, t'es robuste, parce que pour tenir dans les conditions qu'elle a vécues, les choses qu'elle a vécues, pour aller jusqu'à 75, c'est pas mal quand même. Hein.
Ouais,
c'était vraiment robuste. Hein. Bah, c'est un peu comme le Mel, hein, 94 ans. Genre, c'est des. Voilà, c'est... Des alors, comme quoi.
De la nature,
force
de...
Bah oui, mais c'est des personnes d'exception, quand même. Hmm. Bah ouais, un peu. Donc. Mais bon, après, c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup sourire dans le film. Bénédicte, t'as raison. Genre, c'est un peu.
C'est un personnage qui est effectivement habillé en noir. Mmh. Hein, elle explique qu'elle est en deuil et puis qu'elle restera en deuil jusqu'à la fin de sa vie. Donc, effectivement.
Bon, après, c'est pas le bagne, non, c'est pas un bagne, mais.
Si, c'est une bagne.
Après, je disais, il n'y a pas de raison de sourire non plus. Mais enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à mettre des mots sur ce que j'ai ressenti, même. C'est trop, trop austère, elle est trop. Ouais.
C'est parce que t'es pas une militante.
Ah bah non.
Excusez-moi, vous parlez du portrait de Louise Michel au musée Carnavalet?
Non.
Ah, bon, bah au musée Carnavalet, il y a un grand, grand, grand portrait.
Parle dans le micro.
Michel, magnifique. Mais effectivement, là aussi, elle tire la gueule.
Oui, c'est pas. En fait, Eric, il la trouve belle et puis joyeuse, mais quand vous voyez la tête d'Eric, effectivement, c'est un petit peu la même expression. Ouais.
Moi, je m'en fous, mais on a passé Johnny Thunders. Après, vous pouvez dire toutes les conneries que vous voulez.
D'ailleurs,
le plus grand showman de l'histoire du rock'n'roll, parmi en tout cas. Oh, si, putain, c'est un génie, ce mec-là. Un génie, c'est un génie.
Moi, j'ai trouvé ça mauvais, mais bon,
c'est un génie.
C'est une petite phrase un petit peu, ça fait un peu variette là.
C'est un génie.
Non, moi, je trouve pas ça bon, en revanche. Mais bon, moi, je suis un vrai punk, moi. Donc, Louise Michel, elle rencontre les Kanaks, elle se lie d'amitié, donc elle est curieuse. Hein,
elle s'intéresse.
Elle s'intéresse à la flore de
la culture kanak,
à la flore de là où elle vit, des Kanaks. Elle essaye d'apprendre la langue. Elle le parle, elle transmet. Mmh. Voilà, c'est quelqu'un qui
Je ne sais pas si elle n'a pas écrit un dictionnaire ou quelque chose franco-kanak ou kanako-français. Je ne sais pas exactement.
Jean-Manuel le confirme.
Mais qui sera peut-être édité après sa mort, j'en sais rien, tout comme ça. Enfin, j'ai vaguement lu ça quelque part. Et donc, elle a fait vraiment apprendre, veut dire à partir de rien, c'est-à-dire sans méthode, sans rien. Bon, elle était institutrice. Enfin bon, ça, c'est quand même aussi preuve d'une volonté, puis d'une intellectuellement quand même une disponibilité et une aisance et puis une force de caractère quand même dans des conditions.
Qui ne se prête pas.
Tout à fait.
Le but de la relégation, c'est plutôt de désespérer pour
bien
qu'ils
crèvent.
C'est un peu ça.
Elle a complètement brisé. Enfin, elle a brisé le système qui voulait la briser. C'est-à-dire que c'est une. Waouh. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une revenante aussi. Et quelque chose d'assez fort qui est bien montré dans le téléfilm, c'est qu'elle soutient la cause kanak. Alors c'est quasiment la seule lors de la révolte, la guerre et le massacre des kanaks entre septembre et 1878 et début janvier 1879, où ils vont tuer le chef. Enfin bref, on voit à un moment donné qu'ils emportent sa tête, ils ont coupé sa tête, ils emportent
à l'exposition universelle.
N'importe quoi. Enfin, c'est l'époque qui veut ça, l'espèce de suprématie culturelle européenne et le mépris pour les sauvages. Quoi.
Mais alors, en fait, effectivement, elle, en fait, c'est un petit peu la seule à nouer lier des contacts avec les populations locales. Donc effectivement, elle les considère plus, elle les considérait déjà pas comme des sauvages, mais donc elle voit qu'effectivement ils ont une culture, elles ont une culture propre. Ils se sont fait déposséder de leurs biens. Hein, on leur a dit les Occidentaux vont, les Européens vont s'installer ici, mais et en contrepartie, vous aurez essayé ça, puis ils n'ont jamais rien eu. Donc, ils sont fait totalement spolier. Et donc, elle prend contact avec ces personnes, et elle partage une langue. Elle est très appréciée, visiblement.
Parce qu'elle a une relation d'égal à égal, et puis il n'y a pas de...
Et malgré la misogynie qu'on leur prête, elle est quand même intégrée en tant que femme.
C'est ça.
Plus que n'importe quelle autre, quoi. Vraiment, on le sent beaucoup. Mais c'est justement, elle a créé des liens, elle a pris contact. C'est vrai que les autres, ils restent totalement en retrait. Ceux qui sont en relégation et qui vivent entre eux, et qui effectivement, ont des préjugés sur les populations locales. Ils cherchent même pas d'ailleurs à les rencontrer.
Ça arrive à part.
Des sauvages. Ouais.
Donc, à la fin de son séjour, je veux dire ça comme ça, elle obtient d'aller à Nouméa pour enseigner. Elle reprend son rôle d'institutrice. On le voit dans le film plus ou moins assez rapidement, où elle a une classe de petites filles. Une altercation avec la fille de je sais pas qui, du gouverneur maire.
D'un notable,
notable.
Qui
lui dit, ma place est au premier rang, parce que je suis pas ma famille est la première dans la société. On va faire de A à Z, et puis toi, t'es comme t'es V, ou je sais pas quoi.
Tu
vas aller derrière.
Et on lui fait sentir aussi que c'est une déportée.
C'est ça.
Elle devrait pas avoir son mot à dire. Mais malgré tout, elle arrive aussi à prendre le dessus sur ses enfants. Et en fin de compte, ils finissent par admettre.
Ce qui est intéressant, c'est aussi, je pense que ça, c'est une leçon pour tout militant. C'est-à-dire que, d'abord, on travaille sur des faits. On travaille aussi de manière rationnelle et pas sur des humeurs. Elle se sert du droit. On le voit bien dans le règlement intérieur de la pénitentiaire, elle se sert du droit pour contrecarrer les autorités pénitentiaires. Voilà. Et ils n'ont tellement pas de réponse à lui apporter que ça les rend furieux. Et ça, c'est excellent. C'est la même chose avec le patron. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'usage du code du travail, quand on le connaît bien, ou des règlements intérieurs, enfin tout ce que vous connaissez, ou devriez connaître plutôt.
Tu peux l'opposer effectivement aux pratiques.
Exactement. Et rendre illégal, illicite ces pratiques. Ouais.
Ou illégitime, en tout cas.
Ou illégitime, peut-être les trois à la fois. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé ça très fort. La réalisatrice l'a très bien montré dans le. C'est très, très riche, très nourri. C'est un excellent téléfilm à voir et à revoir.
Voilà. Donc, du coup, on voulait parler des
canaques, parce que c'est l'actualité
aussi. Puis ça pouvait permettre.
Ça
va être un peu difficile, puisqu'il reste plus de 4 minutes.
Ça renvoie, de toute façon, ça renvoie à la situation. Alors, ça renvoie de quelques décennies plus tard.
Un bon siècle,
à la situation actuelle, finalement, on s'aperçoit qu'il y a des changements. Bien sûr, aujourd'hui, on roule en voiture, c'est la modernité, etc. Mais les relations entre les différentes populations qu'on ethnicise, n'ont pas tellement changé.
Effectivement, au moment des émeutes, on va appeler ça les caldoches, en tout cas les Européens, qui se sont armés pour combattre, pour se défendre, disent-ils, contre les Kanaks, qu'on a spoliés, pas oubliés, même si ça fait des années qu'ils sont là, mais ils ne sont pas tous là depuis des années, les Européens.
Puis ils arrivent parce qu'il y a du nickel à gogo qu'on veut faire sort fortune.
Qui ont été quand même, en tout cas, qui n'ont pas été embêtés par les forces de l'ordre. Ça fait parallèle avec du coup c'était les forces de l'ordre qui s'en prenaient aux Kanaks avec l'aide des communards. Là c'est bref, ça n'a pas tellement changé.
Et puis les autorités qui criminalisent les autorités locales, donc le fameux, comment il s'appelle, Louis Lefranc, le commissaire de la République, qui espèce de préfet gros, qui criminalise le mouvement social. De la même manière que à l'époque c'était le chef de Nouvelle-Calédonie dans le téléfilm qui dit moi de toute façon le roi ici c'est moi, c'est son subalterne qui dit il y a les lois de la République mais si la loi c'est l'amiral ou je ne sais quoi là qui était sur son cheval et qui on voit très bien qu'il y a quand même un détournement des lois on s'arrange avec les lois quoi quand on est plus fort et qu'on a le fusil, qu'on a le bon bout du fusil. Bon, puis là c'est pareil quoi, situation. On reviendra sur la Kanaki un jour, j'espère, à la rentrée. Tiens, ça sera presque un sujet d'émission parce qu'on nous disait en recherche d'eux, là c'est à mon avis c'est pas terminé de se finir.
On pourra peut-être même trouver un invité. Voilà. On va lancer le générique. On va rappeler que la librairie Publico ne sera pas ouverte tous les jours de la semaine, notamment les dimanches, me semble-t-il. Donc, vous ne pourrez pas trouver le livre à 8 € aux éditions Libertaria. Grève générale.
Mais c'est pas encore Noël, un peu de temps.
Oh non, mais ils peuvent l'acheter pour les vacances, là, pour lire ça sur la plage. Lisez Le Monde Libertaire, bien sûr. Mais on va quand même faire un appel pour ciné mensuel. Voilà. Je suis pas d'accord avec tout ce que dit Madame Sinet, Catherine Sinet, sur les élections. Mais bon, c'est quand même. Un canard un mensuel justement avec des dessinateurs qui me font marrer souvent,
qui sont bons,
que j'aime bien, et puis vaut mieux ça que Charlie Hebdo. Je suis ciné, je suis pas Charlie, je suis ciné. vous pouvez faire un don pour soutenir effectivement le journal. Faut passer par l'association Presse et Pluralisme. Soit c'est par carte bancaire et il faut suivre le lien en toutes lettres cinémensuel.com/don, soit par chèque à l'ordre de Presse et Pluralisme / opération cinémensuel. Voilà, c'est envoyé groupe audience AUDIENS presse et pluralisme CS 90 100, 125 27091 Évreux, CEDEX 9. Voilà, bah, vous serez obligé de réécouter en boucle le podcast pour avoir cette adresse. Sinon, bah, vous achetez Ciné Mensuel. Mais pas trop fort, je suis en train de parler. Voilà, vous achetez Ciné Mensuel. Voilà, pour un numéro double, juillet-août. Et puis soutenez, envoyez un don. Voilà. Et puis achetez toute la presse libertaire. Et puis, on vous passera au cours de des semaines prochaines des rediffusions. Sinon, on se retrouve en direct, live, le 2 septembre. Au revoir à tous. Merci, salut. Bénédicte, Eric. Et
bel été.
À bientôt. Ciao.
Ciao, ciao.
Le proton se rebiffe. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Bonsoir. Ce soir, dans le Proton sur Bif, nous allons découvrir un excellent livre de Richard Sennett, S-E-2-N-E-2-T, dont le titre est « Ce que c'est la main, c'est comme savoir, la culture de l'artisanat ». Donc « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat », c'est paru dans la collection Espace Libre chez Albin Michel. De quoi parle ce livre ? Précisément, nous voyons deux mots que souvent nous ne voulons pas associer, culture et artisanat. Le fond du livre, c'est une défense et illustration et éloge de la technique. Attention, la technique est un mot qui est devenu, hélas, chargé. En effet, de nos jours, la technique, et pire encore le mot technologie, évoque, par exemple, les grandes sociétés informatiques, Google, Amazon, Facebook et compagnie, qui sont en train de détruire l'esprit humain. Mais la technique, c'est également le savoir-faire de l'artisan. C'est d'ailleurs quelque chose que presque tous les êtres humains possèdent, à un degré ou à un autre. Il y a franchement peu d'êtres humains qui ne maîtrisent pas une ou deux ou plusieurs techniques. Ce que veut faire Richard Sennett, c'est donc lutter contre la contamination du sens positif du mot technique par son sens négatif. Il s'y prend d'une manière intéressante.